Seigneur, merci. En ces jours, non seulement nous nous prosternons devant toi, mais nous avons nos cœurs et nos oreilles disposées à t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Guéris-nous de nos maux. Que cette parole soit comme un miroir qui nous renvoie l'image nette et juste, non seulement de ce que nous sommes, mais de ce que quelquefois nous ne voulons pas voir. Mais au-delà de cela, Seigneur, rends-nous capables de devenir les gens des personnes que tu veux que nous puissions devenir. Fais-le au travers du mystère de la prédication, de la folie de la prédication. Nous te voulons au centre de ces cultes. Atteins tes buts, atteins tes objectifs, pas les miens, tes objectifs, tes buts, pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire trois portions des Écritures. Toutes ces trois portions sont tirées de l'Ancien Testament. Je vous donne les textes et puis nous allons les lire. Genèse au chapitre 4. Genèse 4, nous lisons les versets 19 et puis les versets 23 à 24. Genèse 4, verset 19 et puis verset 23 à 24. Après, nous lisons Genèse chapitre 34 et là, nous lisons du verset 25 au verset 31. 25 à 31. Et enfin, nous lirons premier livre de Samuel, au chapitre 25, et nous partirons du verset 2 jusqu'au verset 13. 1 Samuel, chapitre 25, du 2e au 13e. Alors, je vais faire la première lecture, Genèse 4, verset 19. Le mec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre, Tsila. Verset 23. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure. D'autres versions disent, si on me blesse légèrement, si on me blesse profondément, j'ai tué un homme. Si on me blesse légèrement, j'ai tué un enfant. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec sera vengé 77 fois. Quelle progression dans la vengeance. Genèse 34, verset 25, au verset 31. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur le mort et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs, leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils amenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants, leurs femmes et tout ce qui se trouvait dans leur maison. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez et me rendez odieux aux habitants du pays, aux Cananéens, aux Phéréziens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. » Ils répondirent, « Traiterait-on notre sœur comme une prostituée ?» Nous lisons aussi 1 Samuel, au chapitre 25, verset 2 jusqu'au verset 13. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3 000 brebis et 1 000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaïl. C'était une femme de bon sens et de belles figures. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Quel duo. Il descendait de Caleb. David a pris au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous les saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie soit en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous leur avons fait aucun outrage. Rien ne leur avait été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-les à tes serviteurs et ils te les diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. » Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître, et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont des je ne sais d'où. » Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens, « Que chacun de vous saigne son épée. » Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Et il en resta 200 près de ses bagages. Amen. Depuis maintenant 2 semaines, partant de Matthieu chapitre 5 au verset 5, nous parlons sur le thème « Heureux, le doux », qui est une suite de ces béatitudes, ces vérités ô combien profondes que Christ a voulu non seulement enseigner, mais enraciner dans le cœur de ceux qui allaient former le noyau de l'Église, afin qu'ils puissent avoir un style de vie différent. Et la séance dernière, introduisant ces sujets, nous avons dit un certain nombre de choses que je trouve nécessaire de rappeler afin que nous puissions nous mettre au même diapason et continuer. Et parmi ces choses que j'aimerais rappeler, j'en prends 6. La première, c'est de rappeler la définition que nous avons donnée de la douceur. Heureux, le doux. Mais nous sommes mis d'accord sur les contenus de ces mots. Qu'est-ce donc un doux selon la définition générale? Et pour ceux qui étaient là, et celles qui étaient là, parce que dimanche passé, il n'y avait pas autant de monde à cause de la pluie, nous avons pris 5 directions pour définir la douceur. La première direction, nous avons dit que la douceur, c'était le caractère de quelqu'un qui était modéré dans son comportement. Et parlant de comportement, nous avons parlé à la fois d'action, mais surtout des réactions. Souvenez-vous, nous avons dit le dimanche passé que si nous ne pouvons pas toujours être maîtres des actions des autres vis-à-vis de nous-mêmes, nous pouvons au moins être maîtres de nos réactions. Nos réactions, nous les choisissons toujours. Et quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui est modéré dans son comportement, dans ses actions et surtout dans ses réactions. Êtes-vous modéré? Deuxièmement, ou la deuxième direction que nous avons eu à prendre pour parler de la douceur, nous avons dit que c'était une disposition bienveillante qui s'est caractérisée par un comportement qui excluait toute forme de brusquerie et toute forme d'agressivité. Disposition bienveillante qui, dans une personne, se caractérise par l'effort d'exclure toute brusquerie et toute agressivité. Troisième direction que nous avons eu à prendre pour parler de la douceur, nous avons dit que la douceur, c'était le caractère qu'une personne avait qui n'aimait pas heurter inutilement. Quelqu'un qui est doux, il n'aime pas heurter inutilement. Et nous avons dit, s'il est fait, il est fait quand c'est nécessaire. Mais celui qui manque de douceur, il tire sur tout, même quand il ne faut pas. Cinquième, quatrième direction, prise pour définir la douceur, nous avons dit que c'était le caractère de quelqu'un qui évitait si possible les tensions. Mais si jamais les tensions existent déjà, il les apaise. Soit il les évite. Il évite que les tensions puissent exister. Mais si d'aventure les tensions sont déjà là, c'est un homme et une femme qui travaillent pour que les tensions puissent être apaisées. Cinquième direction prise pour définir la douceur. Nous avons dit que c'était le caractère de quelqu'un qui agissait avec délicatesse, qui agit toujours avec tact, et habileté. Tout ça faisait partie de la première des choses que j'ai voulu rappeler. Deuxième des choses, nous avons dit que la douceur dont il est question n'était pas une réalité naturelle, fruit de l'hérédité, fruit de l'éducation. La douceur dont Christ est en train de parler, c'est une qualité spirituelle qui naît de notre relation avec Dieu. Seuls ceux qui ont Christ comme Seigneur et Sauveur, qui sont passés par l'expérience glorieuse, la nouvelle naissance, peuvent se targuer d'avoir cette douceur. Cette douceur qui est classée parmi les fruits, mais les fruits de l'esprit. Pas les fruits de l'éducation, pas les fruits de l'hérédité. Troisième chose, nous avons dit que la Bible nous montrait Jésus-Christ comme un homme de son vivant qui s'est vanté de sa douceur et qui même nous encourageait à être reconnu comme étant détenteur et détentrice de cette qualité. Dans Matthieu chapitre 11, verset 29, parlant de lui-même, il dira « Je suis doux et humble des cœurs ». Et nous avons aussi mentionné Philippiens chapitre 4, verset 5, quand l'apôtre dit « Que votre douceur soit connue de tous ». Que vous soyez détenteur de cette qualité et que cette qualité soit comme votre carte de visite. Que si vous êtes connu, dit l'apôtre Paul, que vous soyez connu comme étant des hommes et des femmes, détenteurs, détentrices de la douceur. Quatrième chose, important encore de rappeler, nous avons dit que la vraie douceur biblique n'était pas le manque de caractère, n'était pas le manque de personnalité ou l'absence de courage. C'est-à-dire, la vraie douceur biblique ne voulait pas dire qu'au nom de la spiritualité, nous étions appelés à tout accepter, à tout tolérer. Souvenez-vous, nous avons mentionné Jean chapitre 2, verset 13 à 16, qui nous a montré Jésus le doux, mais fabriquant un fouet et remettant de l'ordre dans les temples. Et la Bible dit même renversant les tables, poussant les gens. La douceur biblique n'est pas égale à la faiblesse. Cinquième chose, nous avons dit que les doux et la douce, selon la parole de Dieu, peuvent des fois être durs en parole et en attitude, mais ils les font lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est utile. La règle, c'est toujours la douceur, la modération, l'étape, la manière pour faire passer des choses, mais de temps en temps, quand c'est nécessaire et quelquefois obligatoire, ils utilisent la dureté. Et enfin, sixièmement, nous avons dit que la douceur biblique était un choix qui engageait la volonté, mais qui engageait aussi la raison. Qui engage la raison parce que j'ai réfléchi, j'ai dit, si j'utilise une autre méthode, voilà ce que ça va apporter. Voilà les problèmes que ça va créer. Mais si j'utilise la douceur, voilà les profits. Un choix qui engage la raison, mais aussi un choix qui engage la volonté. Pour être doux, il faut les vouloir. Ça ne va pas vous tomber du cou. Vous subissez la douceur comme une agression. C'est à vous de choisir. Je ne veux pas être rude. Je ne veux pas être agressif. Vous décidez de l'être. Et aujourd'hui, nous allons voir, partant de ces trois tests que nous avons vus, de ces trois personnes, qu'est-ce qui amène les gens à manquer de douceur. Et nous allons parler sur les sous-thèmes absence des douceurs, cause et remède. Dans les notes qui vous ont été données, ajoutez simplement chaque fois S, parce que les causes, il y en a plusieurs, et les remèdes aussi, il y en a plusieurs. Et nous allons partir de ces trois personnages que nous avons eus à lire une portion de leur vie. Nous allons voir combien les contraires de la douceur fait des dégâts. Nous allons essayer de comprendre les pourquoi certaines personnes agissent ou se comportent d'une certaine manière négative. Quand quelqu'un manque de douceur, l'on dit généralement qu'il est rude. Rude. Là où il y a absence de douceur, c'est la rudesse qui s'invite. Quelqu'un qui manque de douceur, il est rude. Y a-t-il quelqu'un qui est rude ici? Y a-t-il un homme, y a-t-il une femme? Si toi tu refuses de répondre, ton mari répondra plus facilement. Ta femme donnera plus facilement la réponse. Tes frères donneront plus facilement. Tes sœurs peuvent répondre. Nous allons les voir tout à l'heure. Quelqu'un qui est rude, C'est quelqu'un qui a plusieurs visages, mais j'ai noté quatre visages qui s'attachent à une personne rude. Le premier visage d'un homme ou d'une femme rude, il est désagréable dans son parler, désagréable dans sa façon d'agir. Je suis étonné, même dans le Seigneur, certaines personnes, malgré les années, quand ils ouvrent la bouche, c'est une calamité. Ils ont le don de faire mal. On dirait qu'ils font les choix. Des fois, quand ils parlent, vous avez l'impression qu'ils répètent cela. Qu'est-ce que je dois dire et comment je dois les dire pour faire mal? Les mots faibles, ce n'est pas leur lot. Ils sont désagréables dans leur parler, désagréables dans leur façon d'agir. Est-ce que tu es là, toi, qui agis comme ça? Sûrement pas ici, à Lisanga, peut-être. Deuxième caractéristique des hommes et des femmes rudes, ils manquent de tact et de raffinement dans leur façon d'agir. Ils sont trop directs. Trop directs. Ils sont blessants. Ils ne font pas les choix des mots. La sagesse n'est pas leur lot. On dit des natures qu'il faut réfléchir sept fois avant de parler. Non, eux, ils parlent et puis ils réfléchissent après. Ils font d'abord des dégâts. Pas de choix des mots. Pas de choix d'endroit pour dire certaines choses. Il y a certaines choses, il faut choisir les quand et les comment. Les dit. Mais les gens qui sont rudes, les quand, les où, ça ne leur dit rien. Troisième visage, les hommes et les femmes rudes. Ils sont sévères, mais d'une sévérité inutile. Qui frise et qui frôle la brutalité. Sévérité inutile, qui n'a pas sa raison d'être. Et quatrième visage qu'ont les rudes, ils manquent de sensibilité et de délicatesse. Le rude manque de sensibilité, mais il manque aussi de délicatesse. Les rudes ont quatre caractéristiques principales qui les accompagnent et qui sont attachées à eux comme leur peau. La première caractéristique, c'est qu'ils sont les derniers à se rendre compte de leur mauvais caractère. C'est comme ça qu'ils sont. Ils sont les derniers à se rendre compte de leur mauvais caractère. J'ai mal parlé. Eux-mêmes, ils sont inconscients. Ils blessent, ils font mal. On dirait qu'ils ont un couteau. Mais ils sont les derniers à se rendre compte de cela. Ils en sont inconscients. Et le fait qu'ils sont inconscients, ça rend leur guérison difficile. Parce qu'il ne peut guérir d'une maladie que celui ou celle qui est conscient qu'il a. Or, les rudes sont inconscients de cela. Détenteurs, détentrices d'une chose vilaine, permettez-moi les termes. Mais ils sont inconscients. Deuxième caractéristique des rudes, ils ne sont pas agréables à vivre. Que c'est dur d'avoir une femme rude. Que c'est dur d'avoir un mari rude. Ah, on commencera à dire comme les Quinois. L'éléphant ne se fatigue pas de ses défenses. Non, la vie des couples ne doit pas devenir comme les défenses de l'éléphant. Non, ton mari ne doit pas toujours, dans ce moment intime, commencer à prier. Seigneur, soutiens-moi. Parce que je n'arrive pas à supporter. J'ai eu un jour un couple, une femme était en train de parler à son mari. Quand il a fini, son mari lui a dit, « Ozo lobana mutamu, sala, koko nabino, autamboko soupçonari, nakindo kitonini. » Tellement elle était rude, agressive. Tu es en train de parler à qui? Au domestique, à un oncle venu du village, qu'est-ce que tu soupçonnes de sorcellerie? Désagréable à vivre. Est-ce que tu es agréable à vivre? Un homme qui est assis à côté de sa femme, ou une femme qui est assis à côté de son mari, va essayer de lui poser la question calmement. Chérie, est-ce que je suis agréable? À d'autres n'osent même pas tourner parce qu'ils connaissent la réponse. Pas agréable à vivre. Que c'est dur de vivre à côté d'une femme rude. Que c'est dur de vivre à côté d'un homme rude qui vous blesse, qui vous fait mal. Inconsciemment, mais le fait que c'est inconscient, ça ne fait pas moins mal. Que c'est dur d'avoir un frère en famille rude. On prie qu'il n'ouvre pas la bouche. Que c'est dur d'avoir une sœur qui a un couteau dans sa bouche. Quand il veut, pardon, pardon. Toi, n'ouvre pas la bouche. On sait où ça va finir. Désagréable. Que c'est dur d'avoir un parent rude, un père et une mère. Quand vous avez fauté, vous dites yeah, quand il va parler. Dans une famille, leur maman l'a appelée femme radio et Ouasso. Et Ouasso Tangaroyo Kalikamboyo. Quand elle va apprendre cela, que c'est dur d'avoir un responsable rude, d'avoir un collaborateur rude, d'avoir un ami rude. Autant il est difficile d'avoir une telle personne à nos côtés, autant c'est pénible quand avec cette personne vous êtes engagé pour une alliance pour la vie. Vous savez, des personnes passagères, on peut s'en éloigner. Bon, Atom, c'est tellement rude. J'ai dit, bon, aujourd'hui, c'est dimanche. Lundi, viens pas au bureau, je le verrai mardi. Mais quand c'est ta femme, même quand tu vas faire les tours du monde, tu te dis, aujourd'hui, je vais rester à la gare. Mais finalement, vers 18h, tu vas rentrer. Et dès que tu rentres, elle t'avait déjà blessé. Tu arrives, bon, où tu vas? Est-ce que Baba Kangunayo? D'où tu viens? Elle t'avait déjà blessé. Elle ajoute la dose des blessures. Désagréable. Troisième caractéristique des rudes, ils prennent les doux comme des faibles. Et ils estiment que leur méthode d'agir est la meilleure. Les rudes prennent toujours les doux et les douces comme des faibles. Tu les entêtes par tes méthodes. Ils estiment que leur méthode ou leur méthodologie est la bonne, l'unique, la meilleure. La seule façon d'agir, la seule façon de résoudre les problèmes, c'est ma façon à moi. Quatrième caractéristique des rudes, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on leur parle de leurs défauts. Malheur à toi si tu lui dis tu es ça, tu parles mal, tu ne sais pas faire des remarques, tu ne sais pas faire passer certaines choses. Il prend cela comme quelqu'un qui veut la baisser, quelqu'un qui veut les détruire. Oh Dieu, aide-nous. Il y a deux manières principalement d'être ou de devenir rude. La première manière d'être rude, c'est par la naissance. C'est-à-dire une manière d'être et de faire avec laquelle on est né, transmis au travers des gènes. Dans 1 Pierre chapitre 1, au verset 18, l'apôtre Pierre parle de la vaine manière, il dit que nous avons hérité de nos parents. Il y a une certaine façon d'être rude, hérité. Simplement. C'est parce qu'on encourage, quand tu veux épouser une femme, visite sa famille, vois sa mère. Quand un jeune homme s'intéresse en toi, fais un tour chez eux à la maison. Vois comment son père est, s'il est vivant. Sinon, 3 fois sur 4, on retrouve les mêmes tares qui se retrouvent chez la maman et qu'on retrouve aussi chez la fille. Chez le père, qu'on retrouve chez les garçons. La version Alfred Quinn parle de mode de vie futile transmis par nos ancêtres. La version Nouvelle Bible et Second dit, c'est que vous tenez de vos pères. Ah, Seigneur, aide-moi à ne pas transmettre mes défauts à mes filles. Que cela s'arrête à moi. Mais il y a une deuxième manière principale d'être ou de devenir rude. C'est par les circonstances que l'on a connues. Les circonstances au travers desquelles on est passé. Les circonstances de la vie nous fabriquent. Les circonstances de la vie nous influencent. Et cela me permet de mentionner 4 principes importants qui sont le nœud, le centre et même la colonne vertébrale de l'intervention de ce matin. Parmi ces choses, la première, chaque personne que nous rencontrons aujourd'hui est le produit et la conséquence de ce que hier, avec ses expériences, on fait de lui. Souvent, nous n'avons pas toujours l'idée. Chaque personne que nous rencontrons aujourd'hui, à laquelle nous nous attachons, est la conséquence, la sommation de ce que hier, avec ses expériences, on fait de lui. Deuxième chose d'une grande importance, c'est que chaque fois que nous nous attachons à quelqu'un, sans le savoir, nous prenons l'engagement de partager non seulement son actif, mais aussi son passif. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un et que tu veux t'attacher à lui comme époux, épouse, mari, femme, sans le savoir, tu embrasses non seulement son actif, mais tu embrasses aussi son passif. C'est pour cela, faites attention aux coups de foudre. Tant qu'on a mon genou est pété. Non. Dès que je l'ai vu, écoutez les jeunes gens, j'ai flashé. Flash bien. Celle pour qui tu flashes, nyokula yena bomwana. Et parce qu'elle a tellement souffert, elle est devenue susceptible. Toi, tu as flashé pour la démarche, tu as flashé. Et tu fais une remarque en couple et se met à pleurer, elle est susceptible. On l'a tellement écrasée dans sa vie, chaque personne qui lui fait la remarque, elle a tendance à se dire, elle veut aussi m'écraser. On n'en a pas toujours l'idée. J'ai lu un merveilleux livre écrit par un auteur américain qui est en train d'étudier les personnalités. Et il parlait combien nous sommes différents selon la position familiale que nous occupons. Il dit, inconsciemment ou consciemment, les aînés ont une certaine façon de se conduire. Les cadets aussi la même chose. Toi, tu rencontres un jeune homme ici à l'église, tu le trouves spirituel. Il est spirituel, mais c'est les cadets. Et entre lui et l'avant-dernier, il y a 10 ans. Donc, il a grandi avec des caprices. Et tu auras un homme capricieux. Les caprices ne viendront pas de la femme. Les caprices viendront de l'homme. Mais quand tu l'as vu, si tu as flashé. Tu épouses une jeune femme, aînée d'une famille. Et derrière, il y avait 4 garçons. Des garçons costauds. Et elle a dû se battre pour s'affirmer au milieu de ces garçons. Sans le savoir psychologiquement, c'est quelqu'un qui a appris à se battre pour s'affirmer. Et dans la vie des couples, elle sera comme ça avec toi. Tu l'épouses à cause de sa démarche, mais tu épouses tous les wagons que tu n'as pas vus. Ah, on n'en a pas toujours l'impression. Souvent, nous, c'est l'actif qui nous plaît, mais derrière l'actif, il y a les passifs. Tu épouses une jeune fille qui vient d'une famille équilibrée, son cœur est rempli d'affection. L'affection qu'elle va trouver dans les foyers, c'est un bonus, matabis. Tu rencontres quelqu'un qui a souffert, qui a grandi chez l'oncle, et puis on l'a rejeté, et puis elle est allée chez la tante, et puis on l'a rejeté. Le mariage, c'est le paradis. N'a pas la rabat pas ici, là. Donc, son mariage, c'est tout. Et quand elle entre dans ce mariage, elle rencontre aussi un homme qui a des problèmes. Indifférent avec I majuscule. Les deux ne viennent pas avec les mêmes aspirations. L'un a grandi dans une famille équilibrée, ou bof, ce qu'elle va m'apporter, c'est un bonus, mais l'autre, c'est un glouton spirituel. Un glouton affectif. Lingangaï. Lobelangamalobamalam. Bigisabapotanangabumwana. Elle-même, elle ne le sait pas, mais c'est comme ça qu'elle est. Ah, on n'a aucune idée que des problèmes que nous avons, non seulement à cause d'aujourd'hui, mais à cause d'hier. Un passif. Un passif. Troisième chose, c'est que ne soyons jamais promptes à blâmer quelqu'un à cause d'un aujourd'hui, sans explorer son hier. Ne soyons jamais promptes à blâmer quelqu'un à cause de son aujourd'hui, sans connaître son hier. C'est pour cela quand vous commencez à vous aimer, ne passez pas simplement le temps à vous appeler aux heures creuses quand nous on dort. Quand les communications coûtent moins cher, vous parlez, vous latinez sur vos avana. Des fois, ils se disent des futilités. Les films que tous avaient vus, mais elle s'est mise à les raconter. Tout le monde a filmé, voilà. Et c'est la joie. Qui te parle de lui. Qu'elle te parle d'elle-même. Non, moi je suis né en Geba. En Geba, je suis en passe, je suis en Roulala. À 5 heures du matin, je suis en Tokamai. Ah, tu commences à comprendre. Ah bon, bon, c'est quelqu'un qui a grandi écrasé. Moi, quand j'ai grandi, c'est. Les enfants de ma tante prenaient les petits déjeuners à la table et moi c'était derrière. Ah, tu commences à. Tu sais à qui tu as affaire. Si tu les connais avant, ça vous aide plus tard à résoudre certains problèmes. Mais si tu ne les connais pas avant, tu verras certains quelque tard se manifester. Des attitudes, des habitudes. Tu te poses la question, ça vient d'où? Tu penseras même qu'elle est possédée ou il est possédé. Il n'est pas possédé. Il a des problèmes. Tu l'appelles chou, tu l'appelles chéri. Quand tu découvriras ses problèmes, tu vas commencer à l'appeler démon. Depuis qu'il est entré dans ma vie, c'est devenu fade. Quatrième chose, pour mieux comprendre l'aujourd'hui de quelqu'un, il est important de faire un voyage dans son hier. Il est important. Des fois, vous pouvez le faire avec. Mais des fois, faites sans lui ou sans elle. Allez consulter ses parents, ceux qui ont grandi avec, et vous allez comprendre. Désormais, vous allez régler même vos réactions par rapport à ce que vous savez. Des choses qui font mal à d'autres, ça vous fera plus mal parce que vous savez, bof, elle est comme ça. Les choix des mots, ce n'est pas son fort. Vous apprenez même à esquiver ça. Dans Ésaïe, chapitre 1, au verset 6, la Bible nous présente l'état de quelqu'un dans son aujourd'hui. Mais nous montre aussi que son aujourd'hui est lié à un hier. Écoutez ce que la Bible dit d'une personne. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. D'autres versions disent, rien ne fonctionne. C'est peut-être le cas de l'époux que tu as. C'est peut-être le cas de l'épouse que tu as. Rien n'est en bon état, rien ne fonctionne. Pourquoi? Écoutez ce que la Bible dit. Parce que ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adouci par l'huile. Un blessé de guerre qui s'ignore, mais qui vit avec toi. Blessé, blessé. Quelqu'un a dit, ma femme est tellement blessée, ses blessures ne sont plus intérieures, c'est devenu extérieur. Plaies, contusions, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies. Et ces plaies deviennent purulentes. Elles font une infection. Vous avez à vos côtés des gens infectés. Infectés émotionnellement. Infectés moralement. Infectés sentimentalement. Vous les verrez toujours se plaindre. L'église au amour est athée. Un problème d'affection. Le pasteur a salué tout le monde en donnant bisous. Moi seulement, c'était le bout des doigts. Le problème, ce n'est pas forcément moi. Le problème, c'est... blessé. Ouf, être pasteur, c'est dur. Hein? Et les trois passages que nous avons lus au départ nous présentent trois personnes rudes, chacune pour des raisons différentes, mais avec les mêmes effets. Chacune de ces personnes a empoisonné son entourage. Genèse 4, 19, 23, 24 nous présente un homme, Lémec. Il est tout sauf doux. C'est le premier polygame que la Bible nous présente. Le verset 19 dit, il avait deux femmes. C'est lui qui a inauguré la polygamie. Il avait trois des traits de caractère. Le premier trait de caractère, c'est un autocrate. Ce n'est pas quelqu'un avec lequel l'on discute, on échange. Écoutez ce qu'il dit. Ada est-il à mes femmes? Écoutez ma voix. Écoutez ma parole. C'est comme pour dire, dans cette maison, vous n'avez le droit que d'avoir des oreilles. Pas de bouche. S'il y a quelqu'un qui doit avoir une bouche, c'est moi. Comme dans cette maison où j'ai trouvé une constitution en 10 articles. Article 1, l'homme a toujours raison. En tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Et puis il y a eu article 2 jusqu'à l'article 9 qui ont essayé de donner des cas spéciaux. Et puis article 10, on dit en cas de doute, référez-vous à l'article 1. Il a toujours raison. Que des hommes, malgré qu'ils viennent à l'église, trop durs. Kangamunoko. Nazoloba yopozoloba. Je parle et tu réponds aussi. Oh, tu parles à qui? Il reste que quand tu appelles ta femme, qu'ils disent oui, chef. Alors il y a des hommes comme ça. Même à l'église, spirituel, mais dictateur avec des majuscules. J'allais même mieux dire dictateur. Un homme qui est à côté de sa femme, tu peux m'aider à poser la question à ta femme, chérie, dis-moi sincèrement, est-ce que je suis dictateur? Il laisse la répondre. J'entends une femme dire à son mari, yo, la réponse. Toi-même, tu as la réponse. Autocrate, écrasant les mecs, écoutez-moi, seulement j'ai droit à la parole. Deuxième caractéristique de les mecs, c'est un blessé. Et vous savez ce qui est dit, les blessés blessent toujours. Si vous voyez quelqu'un qui blesse facilement, remontez dans son histoire, c'est un blessé. Quelqu'un qui fait mal des fois pour rien, il doit avoir un problème. Blesser les mecs, qui a même établi un tarif. Il dit, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrissure. Il dit, si un jeune homme, si on me fait une petite douleur, le tarif, c'est un enfant. Mais si on me blesse profondément, j'augmente le tarif. Un homme doit mourir, blessé. Troisième caractéristique de l'émec, c'est quelqu'un qui ne laisse rien passer. Il rend coup pour coup, un rancunier. Caïn sera vengé 7 fois et l'émec sera vengé 77 fois. La version française courante dit, on en tuera 7 pour Caïn, mais pour venger l'émec, on en tuera 77. Qu'est-ce qui a amené les mecs à agir d'une telle manière? Les historiens disent, c'est quelqu'un qui a été dérangé par ses parents, déjà là au début de l'humanité. J'aurais pas voulu être l'une des femmes de les mecs. Mieux vaut des fois être célibataire tout court que d'être épouse d'une telle personne. Et puis à Genèse chapitre 34, versets 25 à 31, qui nous parle de deux jeunes gens dans une famille, qui manquent de douceur. Ils sont tout sauf doux, rudes, très rudes, Siméon et Lévi. Écoutez comment ils ont été méchants. C'est vrai, on a maltraité leur sœur. Mais ça n'a pas été vraiment une vraie maltraitance. Parce que leur sœur a aimé ces jeunes hommes. Ils n'ont pas aimé cela. Ils n'ont pas apprécié cela. Ils ont joué à l'hypocrite. Ils ont fait comme s'ils voulaient avoir des rapports avec les habitants de Sichem. Et la Bible dit, au troisième jour, alors qu'aucun homme de cette contrée, si je dois contextualiser, ne pouvait porter un pantalon à cause des blessures qu'ils avaient dans leur chair, ils portaient tous des pagnes et marchaient comme ça. Parce qu'ils les avaient obligés à la circoncision. C'est à ce moment-là qu'ils viennent. Ils viennent raser tout le monde. C'est comme s'ils avaient comme devise la vengeance. Est un plat qui se mange froid. On ne chauffe jamais les plats de la vengeance. Ils grincent des dents. Ils ont fait ça. Ils vont voir. Nous allons venir et nous allons frapper. Leur acte a été tellement ignoble qu'il est étonnant de voir plus de 45 ans après. Lisez avec moi Genèse 49, verset 5. Jusqu'au verset 7, plus de 45 ans après, leur père a été marqué par cette histoire. Il est étonnant de voir Jacob en train de mourir. Il a béni tous ses fils, sauf Siméon et Lévi. Siméon et Lévi ont été les seuls à être maudits. Écoutez ce que Jacob dit au soir de sa vie. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'inuse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, le terme méchanceté est aussi traduit par rudesse. Dans leur agressivité, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Écoutez le verset 7. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Il dit à la fin, je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Tous les fils ont été bénis sauf eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de douceur. Et nous en parlerons la séance prochaine, car la Bible dit, heureux les doux, car ils hériteront la terre. Il y a un héritage attaché à la douceur. Mais Siméon et Lévi, comment expliquer leur comportement? Deux choses. Ils ont été les fils d'une femme pleine de sécurité. D'une femme qui elle-même a grandi avec des complexes. D'une femme qui cherchait coûte que coûte à être aimée. Et deuxièmement, ils ont grandi dans une sorte d'atmosphère de compétition. Tellement d'enfants que chacun cherchait à être aimé. Oh, vous n'avez aucune idée, comme je l'ai dit. La personne avec laquelle vous vous attachez aujourd'hui amène son passé. Et vous allez subir un passé pour lequel vous n'avez pas contribué. Ce récit nous montre trois traits de caractère de Siméon et de Lévi. Premièrement, ils sont rancuniers. Ils ne peuvent pardonner. Deuxièmement, ils sont raffinés dans le mal. Ils font le mal avec raffinement. Ils calculent. Nous allons les attaquer le troisième jour. Le troisième jour. Ils ont les soucis du détail et de la planification. Troisième caractéristique, ils sont incontrôlables. Lorsqu'ils veulent se venger, rien ni personne ne peut les arrêter. Seigneur, aide-moi à savoir qui je suis réellement. Et puis enfin, il nous est parlé d'un homme qui manque aussi de douceur. Ah, Seigneur, que je ne sois pas une Abigail qui épouse Nabal. 1 Samuel chapitre 25, verset 3, parlant de Nabal, utilise des termes forts pour le décrire. Il est dit, il était dur et méchant dans ses actions. Y a-t-il un homme dur et méchant dans ses actions? Dur et méchant. Qui contrôle les morceaux de viande quand son épouse a préparé. Toi, tu as dit 12. Toi, tu as dit 4 à la messa. Toi, tu as dit moko. Et moi, j'ai mangé 2. Donc, normalement, on a mangé 6. Où sont les 6 autres morceaux? Et puis, surtout les gros là que j'avais vus. Oh! Et quand on ouvrait la bouche, c'est de quoi on a passé, hein? Mbongo, ça a passé, hein? Et si tu as souffert, tu dois venir nous faire souffrir aussi. J'ai entendu un homme parler à son mari, madame, je ne suis pas le Fonds monétaire international. Oh! Il y a des remarques, certes, à faire, mais il y a une manière de les faire passer. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut mieux dire. Un jour au bureau, c'est Marie du pasteur. Moi, c'est Nangazana Kamwa Goliambongo. Allez, Rambongo, le rôle en Gouba. Kamwa Goliambongo, français, on dira quoi? Aidez-moi. Pour ceux qui vont suivre à la télé. Pardon? Elle est hyper dépensière. Ça, ça a tenu. Les Français. Camo, 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 hein? Vous qui allez suivre, Camo. Dur dans ses actions et méchant. Une autre version dit d'un caractère violent et irascible. La tradition juive les présente sous trois aspects. La tradition juive présente Nabal comme étant un homme grossier. Grossier. Prêt à utiliser des gros mots. Prêt à vous abaisser. Prêt à dire des choses. J'arrive un jour visiter un couple et j'ai eu mal. J'ai entendu un homme qui, c'est vrai, peut-être qu'ils ont eu des mésententes. Et ils criaient en sortant sur les balcons. Moi, si salité. Olingina loba. Femme qui manque de propreté. Même si c'est vrai, est-ce que tu dois en faire la publicité? Ah, demain, tu vas demander pardon, vous allez vous revenir ensemble, mais ça va rester. Le feu pasteur Vernon, mais parlons de la vie des couples. Il dit, Roland, la vie des couples, c'est comme quand tu as un morceau de bois et puis un clou. Si tu frappes un clou avec un marteau, et puis après tu enlèves, les clous est parti, mais les trous. Chérie, pardonne-moi, je n'aurais pas dû dire ça. Moi, j'enlève, mais c'est parti. Les voisines vont commencer à me regarder, mais quand je suis bien habillé. Et puis elle s'appuie sur quelque chose, c'est son propre mari qui a. Biswangali. Comme les Quinois disent. Si le capitaine vient vous dire que l'anguille est blessée, il faut le croire parce que les deux habitent. Français, ça sera terrible. Il faut aller au baron de Lingala. Grossier, Nabal. Deuxième trait de caractère qui est la tradition présente de Nabal, il était maussade. Maussade. Sans joie. Visage toujours fermé. Et troisième trait de caractère que la tradition présente, Nabal, il était toujours de mauvaise humeur. Toujours. Un visage de mécontentement pour tout et pour rien. Dur de caractère. Méchant dans ses actions. Et le verset 10 à 11 nous montre son langage dur et méprisant, mais pour une demande qui n'avait rien d'offensant. David envoie des gens parce qu'ils ont faim. Il dit, allez demander à Nabal. Pourquoi? Parce que David a rendu service à Nabal. Une demande simple pour laquelle on peut dire, je ne veux pas. Je n'ai pas suffisamment. Mais il est tellement méchant. Écoutez sa réponse. Qui est David? Il montre comme s'il ne les connaît pas. Mais la deuxième phrase montre qu'il les connaît vraiment. Qui est le fils d'Isaïe? Mais si tu dis qu'il est le fils d'Isaïe, c'est que tu les connais quand même. Méchanceté. Et puis il ajoute encore. En ces jours, beaucoup de serviteurs s'échappent de leur maître. C'est-à-dire un rebelle. Et moi, je prendrai mon pain. Je prendrai ma viande à moi. Je donnerai à des gens qui viennent de je ne sais d'où. Nabal, est-ce que tu as besoin de ça? Il y a des gens qui sont méchants inutilement. Non, allez dire à David, il n'y en a pas pour lui. Et ça aurait créé un problème. Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Et ceux qui ont rapporté les paroles, sûrement ils ont rapporté mot à mot avec les virgules. Les textes sont que quand c'est arrivé, David s'est retourné et dit, en place, repos, portez armes, levez-vous. Le sang va couler aujourd'hui pour une parole. Il y a des guerres que c'est toi-même qui crées. Un pasteur, il y a un peu de combat. C'est toi la base des combats. Pasteur, mon mari est ceci. Si je viens bien visiter, ton mari n'agit pas, ton mari réagit. Non, mon mari est indifférent, il ne m'achète rien. J'aimerais venir visiter, voir. Est-ce que cet homme est comme ça gratuitement? Qu'il y a des gens qui fabriquent des David méchants et qui n'arrivent pas à savoir que les David sont la conséquence de leurs actes. Heureux, le doux. Heureux ceux qui font montre la douceur. Proverbe 18 au verset 21 dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les gens qui manquent de douceur, qui sont rudes, ne savent pas comment parler. Quand parler? Proverbe 12 au verset 18 ajoute, tel parle légèrement et blesse comme un glaive. D'autres versions disent, autant qu'une épée. Il y a des gens qui ont les dons de blesser. Une autre version dynamique dit, leurs paroles sont comme des pointes d'épée qui percent. Psaume 57, verset 5, David parlant de la force des paroles par des hommes qui vomissent du feu. Il parle de leur langue et dit, leur langue est comme un glaive tranchant. Une autre version dit, leur langue est affinée comme un poignard. Toujours David, dans Psaume 140, verset 4, il dit d'un groupe de gens chez lesquels il manquait la douceur, il dit, ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leur langue un venin d'aspic. Ils sont violents. Dans Colossiens chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul donne une recommandation en rapport avec notre façon d'être avec les autres. Il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est ça la recommandation. La version française courante dit que vos paroles soient toujours agréables et pleines d'intérêt. Il dit, sachez répondre à chacun de la bonne manière. Avant de clore en ce jour, j'aimerais parler d'un autre trait qui accompagne la rudesse le plus souvent et qui est aussi l'absence de la douceur, c'est la colère. Y a-t-il des colériques ici? Par rapport à la colère, j'aimerais dire un certain nombre de choses rapidement et nous allons conclure. La première, c'est que la colère n'est pas toujours une mauvaise chose en elle-même. Qu'est-ce donc la colère? C'est une irritation passagère due à un mécontentement profond. C'est une irritation passagère due à un mécontentement profond. Elle n'est pas toujours mauvaise. J'avais dit à ma femme, j'arrive à 16 heures et j'ai un mariage à 17 heures. Mais je voudrais déjà à 16h20 repartir. J'ai appelé même vers 14h30, prépare mon costume. Et j'arrive à 16h, je la trouve devant la télé en train de regarder une série nigérienne. Yeah! Yeah! Chérie, mon costume, il est prêt! J'avais oublié. Au nom de la spiritualité, qu'est-ce que je dois dire? Gloire à Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, je veux m'irriter. Mais qu'est-ce qu'il y a, chérie? Est-ce que tu peux le faire rapidement? Je ne deviens pas moins spirituel. Je ne deviens pas moins amoureux de toi. Si un homme est d'accord avec moi, qu'il dise Amen. Je savais que vous allez dire ça. Et n'est pas toujours une mauvaise chose. Je rentre à la maison, je trouve les domestiques en train de tripoter ma fille de 15 ans. Je vais dire gloire à Dieu. La Bible dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. J'irai vers lui. Rigobert, Ronini. Vous en avez moins cité. Tu n'as pas une femme, Rigobert. Je n'ai pas péché. La colère n'est pas toujours une mauvaise chose. Deuxième des choses, c'est que la colère qui est absente des douceurs a des degrés. Ça part de la simple irritation, ça monte vers l'énervement et ça va vers les degrés les plus élevés, courroux et rage de colère. Il y a des gens qui sont enragés. Quand ils sont fâchés, ils perdent le contrôle. Et c'est ça qui commence à devenir mauvais. Ils deviennent violents et verbalement et puis violents en action. Quels sont vos degrés d'irritation? Il y a des gens qui ont des degrés d'irritation célébrissimes. Connus de tout le monde et même d'eux-mêmes. Ils en parlent comme je disais dimanche passé. Quand ils parlent, « Moi, mes colères, hein? Demande à ma femme. Hein? » « Il y a d'autres, quand ils sont fâchés, commencent à trembler. D'autres, ils prennent tout ce qu'il y a à côté pour régler certains problèmes. D'autres, quand ils sont fâchés, ils se renferment. Proverbe 27, verset 4, parle de la fureur qui pousse à la cruauté. Troisième des choses, c'est que trois fois sur quatre, lorsque le mot colère est utilisé dans la parole de Dieu, cela va vous étonner, c'est en rapport avec Dieu. Si vous lisez la Bible, de Genèse à Apocalypse, si le mot colère est mentionné 100 fois, 85 fois c'est en rapport avec Dieu. La colère de Dieu s'enflamme. Un célèbre militaire avait dit autrefois, la colère de Dieu est lente, mais elle est là. Mais l'avantage avec Dieu, c'est qu'il n'a pas ce sort de colère qui lui fait perdre les contrôles. Dieu s'irrite, mais Dieu ne perd jamais les contrôles. Quatrième chose, c'est que la colère en elle-même n'est pas un péché. Mais le problème, c'est plutôt, qu'est-ce que la colère nous pousse à faire? En elle-même, ce n'est pas un péché. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27, l'apôtre nous donne les principes attachés à la gestion de la colère. Écoutez ce qu'il dit. Si vous vous mettez en colère, cela veut dire quoi? La colère n'est pas une obligation, c'est une option. Si cela arrive. Mais deuxième chose, il dit, ne péchez point. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il est possible de se mettre en colère, de perdre la douceur, mais de rester dans les bornes. Ne péchez point. N'allez pas au-delà. Qu'est-ce que la colère vous pousse à faire? J'ai vécu une scène, j'en ai parlé une fois un mercredi ici. Quelque chose que j'ai vécu en live. Une maman qui envoie son enfant, un petit garçon, je pense, une fille de 6 ou 7 ans, à l'acheter du sucre. Une grande quantité. Mais l'enfant, au lieu de ramener du sucre, a ramené du sel. Fâchée la maman, elle s'est retournée. Elle a pris un morceau de bois qui était à côté. Je ne pense pas qu'elle visait l'œil. Elle visait simplement de faire mal. Et puis c'est allé, j'ai assisté à la scène. Du coup, piouf, j'ai vu comment l'œil sortait. À cause de quelques nouveaux zaïrs de l'époque. Perdu. Une fille peut-être ne se mariera plus. Aura moins de chance simplement parce que tu as voulu régler un problème. J'ai un gars, un ami que j'ai connu, on étudiait avec à l'école primaire. J'ai appris l'histoire, j'arrive une fois en Europe, qu'il était en prison pour 10 ans. Il est rentré à la maison, son épouse a préparé un plat, mais qui était plus salé. Viens goûter ce que tu as préparé. Les hommes sont terribles. Et puis elle fait, est-ce qu'on peut préparer pour quelqu'un? L'épouse a voulu s'expliquer et il a poussé. La femme a glissé. Nuque contre la terre, elle est morte sur les champs. C'est vrai, elle a mis un peu plus de sel, je ne suis pas appelé à acclamer. Mais est-ce nécessaire d'avoir une réaction autant disproportionnée? Les enfants, ils en avaient trois. Ils ont d'abord perdu une mère. Puis pour 10 ans, ils ont perdu un père en prison. Les sociales à récupérer les enfants. Si simplement tu veux faire montre de modération. J'ai vu des hommes, quelquefois, il est fâché avec la femme. La femme est enceinte, il donne des coups au ventre. Vous dites, hein, vous le faites. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Mais l'apôtre Paul ajoute aussi que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il y a des gens qui font des pauses de colère. Sa colère va durer 7 jours avec des pauses entre-temps. Je vous ai déjà raconté l'histoire d'un petit neveu à moi. Ma cousine l'avait tapé, s'est mise à pleurer. Et puis après une heure, la voix est partie. Alors ma cousine vient dire, alors Jeannot, tu as fini de pleurer? Dit non, je me repose. Comme pour dire, d'ici là, je vais reprendre. Que le soleil ne se couche pas sur votre. Il a mal agi, elle a mal agi. 3 semaines. 4 semaines. Oh! victime, qu'on la regarde au four, comme un Seigneur, pardon. Jusqu'au jour où elle viendra se mettre à genoux. Et je ne veux plus la toucher. Je la punis. Et puis enfin, l'apôtre Paul dit, ne donne pas accès au diable. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne donnez pas accès au diable. Et sur ce plan, je pense que les Quinois sont bien placés. Quand vous trouvez des jeunes gens en cours de route, en train de vouloir se battre, écoutez ce que les Quinois disent. Satana. Ah, ils savent que c'est le moment d'amener les diables. Satana. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. La Bible nous encourage à éviter la colère. À l'éviter. L'apôtre dit dans Jacques chapitre 1, verset 19 et 20, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et surtout lent à se mettre en colère. Et le verset 20 dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jamais. Jamais. Alors comment faire pour vaincre la rudesse? Comment faire pour vaincre la colère? Comment faire pour ne pas être un Nabal? Comment faire pour ne pas être un Lémec? Comment faire pour ne pas être un Siméon? Quatre petites choses. La première, être conscient que l'on est rude. Être conscient que l'on est coléreux, colérique. Être conscient qu'on l'est de par la naissance. Mais être conscient, c'est peut-être des blessures que l'on a. Ma prière en ce jour est que Dieu guérisse plusieurs. Parce que dès l'instant où tu seras guéri, tu vas assainir ton environnement. Un homme deviendra plus heureux parce que sa femme sera guérie ce matin. Une femme vivra un couple nouveau parce que son homme sera guéri dans son intérieur. Des frères vivront une trêve parce que leur sœur sera guérie. Acceptez cela. Je suis trop dur de caractère. J'aimerais te dire, est-ce que tout le monde a tort? La plupart des gens te font la même remarque. Si tu veux savoir qui tu es, Dieu peut nous le faire savoir, mais quelquefois Dieu se sert des autres comme un miroir pour te renvoyer une image. Mais toi, tout le monde a tort. Tout le monde se plaint simplement de t'en parler. Bon, si moi j'avais tort, X aussi a tort. Il était à raconter un gars, Baligarabangonios, papa. Ne peux-tu pas t'arrêter de dire, est-ce que ce n'est pas Dieu qui est en train de me parler au travers d'eux? Seigneur, on ne me fait pas 8 remarques. On ne m'en fait pas 15. C'est la seule remarque. Je suis rude. Je suis dur. Deuxième démarche, être conscient que l'on ne peut se sauver soi-même. On ne peut s'améliorer soi-même. Troisièmement, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour ceux et celles qui n'ont pas Christ, le premier pas pour guérir de la rudesse, de la colère et de tous ses effets, c'est avoir Christ. Car la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quatrième et dernière démarche pour vaincre la rudesse, c'est faire mourir le vieil homme. Les dominer. Dès l'instant où nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons deux natures qui se battent en nous. La vieille nature avec ses mauvaises habitudes et puis la nouvelle. Mais c'est la nature qui est plus nourrie qui a tendance à dominer. Prends conscience, j'ai une mauvaise nature. Seigneur, guéris-moi. J'aimerais nous inviter ce matin à baisser nos têtes dans la prière. J'aimerais inviter Maman Dadej Mbouma. Elle va nous accompagner durant ce temps. Je prie qu'ici à Lisanga, fermez-moi la grande barrière, que personne ne bouge. Quand je le crois, cette matinée est celle de la guérison. De la guérison. Et je lance ces deux appels. Le tout premier, il y a quelqu'un, un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, qui doit être guéri de la rudesse, en parole, en acte, en réaction. Mais ta guérison passe d'abord par le fait pour toi d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu ne peux pas simplement prendre des décisions. Les décisions du 31 décembre au 1er janvier. J'arrête. Non. Il faut Christ dans une vie. Il y a quelqu'un ce dimanche matin qui doit l'inviter en disant, viens, reconnais même, Seigneur Jésus, je me suis battu moi-même contre ce mauvais caractère. Je ne suis pas arrivé. Oh, il est possible que tu ailles à un lieu de culte. Tu sois attaché à une église. Tu aies même une carte de membre. Mais être en Christ, c'est bien que passer par les sacrements. C'est bien plus que être régulier. As-tu accepté Christ comme Seigneur et Sauveur? L'as-tu invité dans ta vie en lui donnant la possibilité de la diriger? Mais le deuxième appel que je me réfère, c'est pour les hommes et les femmes qui ont déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui par l'hérédité traitent, qui font d'eux et d'elles une source de mal. Des hommes et des femmes qui ont été blessés sur le chemin de la vie. Tu as vécu des choses qui ont transformé ton comportement. Souvent, tu n'en es pas conscient, mais ce matin, Dieu t'a parlé. Si tu veux accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, pour guérir de cette chose et avoir la douceur comme trait de caractère, ne veux-tu pas t'élever ici et à l'Isanga? Toi qui veux lui donner la possibilité de te guérir de la rudesse, de l'agressivité verbale en comportement, mais qui reconnaît que le premier pas, le plus important, c'est l'inviter. Merci pour les quelques personnes qui s'élèvent. Et ici et dans les salles de classe et plus loin. Mais deuxième appel, y a-t-il quelqu'un qui veut dire, je suis enfant de Dieu, mais je suis rude. Je manque de douceur. Je suis colérique. D'une colère qui me fait perdre les contrôles. Il y a quelqu'un non seulement qui se sent touché par cette parole, mais qui veut même venir se coucher par terre ici pour dire, Jésus, guéris-moi. Guéris-moi avant qu'il ne soit trop tard. Guéris-moi avant que je ne fasse des dégâts collatéraux tout autour de moi. Ah, je le sais, je le sens dans mon cœur. Il y a quelqu'un qui doit s'élever et qui ne l'est pas encore. L'abbé dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que plusieurs qui ont des colères légendaires, colère que tu exprimes vis-à-vis de ta fille, elle subit tes frustrations, tes manquements, des choses que tu aurais voulu être, avoir et que tu n'as pas, et tu l'exprimes sous forme de venin sur cet enfant. Le problème n'est pas elle, il a peut-être cassé un verre, elle a peut-être cassé une assiette, mais tes réactions sont disproportionnées, non pas à cause de l'acte, mais à cause des problèmes que tu as. Je prie que personne ne se mette à l'abri. Et alors que ce merveilleux cantique, qu'est-ce que j'aime ce cantique? Qu'est-ce que j'aime ce cantique? Alors qu'il sera en train de jouer, parle au Seigneur. Si tu veux même te mettre à genoux là où tu es fêlé, si tu sens que tu dois sortir, viens. Et il est là ce matin pour guérir. L'esprit de guérison est ici.
Réponds-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée-moi un cœur nouveau.
Crée-moi un cœur nouveau. Avec des réactions nouvelles.
Tu t'appelles, je suis pour me dire, je sais.
Mon mari me fait la même
Est-ce
remarque.
Ne peut troubler.
Ma femme fait la même remarque. Mes enfants ont des cicatrices dans leur cœur. À cause de mon insécurité. Mon mari me supporte. Si j'avais un mari moins patient, dont tes couples auraient volé en éclats. Heureusement que lui, il est tout. Heureusement qu'il est patient. Ne veux-tu pas dire, Seigneur, guéris-moi avant qu'un jour ne se fatigue.
Inscris ton nom dans
Heureusement, tu as une femme patiente.
Sinon,
qui te supporte, qui te protège, qui ne fait pas la publicité de ton comportement.
Ton amour, mais lendemain, au palier des bien-aimés, où ta grâce me fait régner, je me réjouis de partager tes mains. Tendre ami, oh,
à toi.
Ton esprit en moi vénère la grandeur de tout ton être. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'ai. Oh, oh, oh,
Esprit, ton nom dans mon esprit, Seigneur.